Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe,
la radio sauvage.
Eh oui, il est 6h avant minuit, vous écoutez bien l'émission d'actu locale de Syllabe. L'algorithme de TikTok pousse-t-il des jeunes à l'autodestruction, voire au suicide? La justice va devoir répondre à cette question. Cette famille assigne le réseau social chinois devant le tribunal judiciaire de Créteil. Des parents affirment que cette technologie aurait exposé leurs enfants à des contenus dangereux. Sur la plateforme, des vidéos font en effet la promotion du suicide, de l'automutilation, mais aussi des troubles alimentaires. L'algorithme, suivant le style de recherche d'ados en dépression, accentuerait leur mal-être en leur proposant des vidéos de plus en plus explicites. Certains contenus donneraient même la marche à suivre pour s'automutiler ou s'affamer. Un cercle vicieux ayant conduit 6 adolescentes, des familles aujourd'hui au tribunal à tenter de mettre fin à leur jour. Deux d'entre elles, âgées de 15 ans, sont décédées. L'algorithme est-il un cercle numérique vicieux ? La génération Z est-elle le crash test d'une technologie dont personne n'avait imaginé les conséquences néfastes ? Vous avez 4 heures. En attendant, c'est le flash de Gwen.
Une étudiante arrêtée par les gardiens de la Révolution à Téhéran. Samedi 2 novembre, une famille iranienne protestait en déambulant en sous-vêtements sur le campus d'Azdad. Son identité reste encore inconnue. Son acte de rébellion serait une réponse aux forces militaires. Peu de temps avant, les gardiens lui auraient arraché ses vêtements. Le prétexte, l'étudiante aurait mal porté le voile. En protestation, la jeune femme se serait presque entièrement dévêtue. Pendant son arrestation, elle a été blessée et embarquée de force dans une voiture. L'ONG Amnesty International exige sa libération immédiatement et sans condition. En Catalogne, ainsi que dans la région de Valence, ce lundi n'annonce pas un retour au travail pour tout le monde. Eva, qu'est-ce qui se passe ?
En effet, plusieurs villes espagnoles, comme Tarragone ou Valence, ont décidé aujourd'hui de fermer les classes et d'encourager les habitants de l'Est de l'Espagne à rester chez eux. Ces décisions font suite à l'alerte de catégorie orange émise par l'AMET, l'agence de météorologie espagnole dans ces régions toujours à risque. Hier, le roi Felipe VI, la reine Laetitia, le chef du gouvernement socialiste Pedro Sanchez et le président conservateur de la région de Valence, Carlos Maton, se sont rendus à Paiporta. En plus des pertes humaines et matérielles, certaines villes comme Paiporta, à quelques minutes de voiture de Valence, se sont vues isolées dues aux inondations de la semaine dernière qui ont enseveli les routes. Mais les représentants du pays et de la région ont été accueillis par des insultes et des jets de boue d'Espagnols en colère et ont donc décidé d'écourter leur séjour. Que ce soit les habitants de Paiporta ou ceux des autres villes touchées par les inondations, le même message revient. Les responsables politiques n'ont pas été à la hauteur. En effet, alors que l'agence météorologique espagnole avait émis plusieurs alertes mardi 29 octobre, Carlos Maton a déclaré le jour même que la tempête serait terminée vers 18h. Avec un déploiement des secours insuffisant pendant les premiers jours du drame, des dizaines de milliers d'Espagnols ont dû se charger eux-mêmes de remettre à bien les décombres de leur ville. Aujourd'hui, il y a au moins 205 morts dans la région de Valence et encore des dizaines de personnes disparues. Mardi 29 octobre, au soir, jusqu'à dimanche dernier, des pluies torrentielles n'ont cessé de tomber sur l'est de l'Espagne. À Chiva, à une centaine de kilomètres de Valence, explique François Gourand, prévisionniste à Météo France, il est tombé 343 mm en 4 heures mardi soir et le cumul total a atteint 491 mm mercredi matin, soit 491 litres par mètre carré ou à peu près 9 mois de pluie accumulée sur Paris.
Mais qu'est-ce qui cause de telles pluies ?
La goutte froide, ou Dana en espagnol. Ce phénomène météorologique peut être caractérisé par la rencontre entre une poche d'air froid et une atmosphère chargée en air chaud, provenant ici du sud et de la Méditerranée. Cette rencontre chaud-froid favorise la formation des nuages, de nuages épais qui se remplissent et remplissent d'eau jusqu'à saturation. Une fois à saturation, d'importants orages se forment et des pluies diluviennes tombent avec. La situation géographique de Valence et de ses alentours n'aide pas à la situation globale. La ville de Valence est le centre d'une dépression bordée de montagnes et de collines. Associée à l'artificialisation des sols de béton, l'écoulement de l'eau des pluies de la région s'accumule dans la dépression. Et comme un bassin qui se remplit, la région valencienne est rapidement inondée. Les scientifiques du GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le savent et expliquent à Ouest France. Avec une mer et une atmosphère qui se réchauffent, on fabrique encore plus de pluie. Et la violence des précipitations augmente au même rythme que le réchauffement climatique. Ils en viennent à la même conclusion. Ces crues meurtrières vont s'accentuer, plus particulièrement dans les zones méditerranéennes comme le sud-est de l'Espagne.
Merci Eva. Aujourd'hui, 13h, le verdict est tombé. Le prix Goncourt 2024 est attribué à Kamel Daoud pour son roman Ouris. Les jurés ont eu bien du mal à choisir entre lui, Gaël Faye, Hélène Gaudy et Sandrine Colette. Mais c'est bien Ouris qui remporte le prix avec 6 voix sur 10. La fiction de Daoud se déroule au moment de la guerre civile algérienne entre 1992 et 2002. Le gouvernement algérien a interdit sa publication, comme tout autre ouvrage évoquant ce moment de l'histoire du pays. Couronner Ouris comme prix Goncourt est là aussi une revendication politique. Mais on n'oublie pas Gaël Faye, qui reçoit, lui, le prix Renaudot. Vous pouvez retrouver ses romans dans toute bonne librairie. Aujourd'hui, c'est le début des procès des adultes accusés d'avoir un lien avec l'assassinat de Samuel Paty, le 16 octobre 2020. Ce sont 8 adultes qui vont comparaître devant la cour d'assises spéciale de Paris. Ils doivent répondre de leurs responsabilités engagées dans la mécanique de l'attentat. Certains sont des membres du réseau islamiste, d'autres d'anciens amis de Abdullah Azonrov liés à cet acte de barbarie. Abdullah Azonrov est le meurtrier du professeur. Les policiers l'ont abattu après son crime. Il y a moins d'un an, 6 mineurs avaient été condamnés pour complicité dans cette décapitation. Le procès se tiendra jusqu'au 20 décembre. Nekfeu est accusé de violences psychologiques, physiques et sexuelles par son ex-femme. L'information tourne sur les réseaux sociaux depuis ce matin, après le communiqué de Florence Fécom. C'est l'avocate de la victime. Elle explique que les faits se sont produits plusieurs fois pendant les 4 années de leur relation. La femme s'est rendue au commissariat en 2023 pour une première déposition. La peur des représailles l'a dissuadée d'entamer une procédure. Mais en août 2024, elle porte plainte. Une plainte qui aurait été refusée illégalement par le commissariat. Cette médiatisation est nécessaire pour cette jeune maman qui affirme avoir besoin de dénoncer ces faits car elle se sent en danger et qui souhaite être protégée par la justice. Avant les vacances de la Toussaint, Anthony est allé faire un tour au Marathon Vert pour sa 13e édition. Il nous explique le concept.
Et si vous levez les bras ?
En cette fraîche matinée, musique écossaise et électronique retentit sur le mail François Mitterrand. Coureurs et coureuses s'agglutinent devant la ligne de départ. Anne, accompagnée de son fils, est prête pour le départ.
C'est le premier semi-marathon que je fais et donc j'avais envie de le faire au moins une fois dans ma vie. Et ça tombe le jour de mon anniversaire.
Bruno a fait le chemin depuis la région parisienne pour venir courir.
Ouais, c'est la première fois qu'on vient à Rennes. C'était l'occasion de mettre un petit week-end au moment des vacances de la Toussaint en famille.
Charlotte Bénard, chargée de communication pour le Marathon Vert.
Donc le Marathon Vert, c'est le marathon de la capitale de la Bretagne. Ça a été créé en 2011 par Daniel Gelin, donc qui est un entrepreneur rennais très connu sur Rennes. Et donc, avec sa passion pour le sport, il a créé ce marathon avec le slogan « 1 km parcouru, un arbre planté » avec la Fondation Yves Rocher.
Cette tumultueuse édition a accueilli 15 000 coureurs. Il y a eu aussi 3 500 coureurs en individuel et 2 000 participants en course en duo. Le plogging, vous connaissez peut-être. Eh bien, il s'agit d'une activité créée en Suède en 2016. Ces opérations consistent à courir tout en ramassant des déchets pour le respect de notre biodiversité. Le Marathon Vert a d'ailleurs adopté le plogging en 2018 à son événement. Deux parcours sont proposés, un de 7 km, l'autre de 3 km. Les participants déambulent tout en courant dans l'agglomération rennaise et ôtent les déchets étalés sur le sol. À la fin de ces épreuves, les sacs où sont stockés les détritus sont pesés.
Je vois pas. Merci Anthony. Maintenant, Romain et Léane sont allés découvrir les initiatives mises en place dans le quartier de Maurepa, souvent considéré comme un quartier sensible. Il et elle sont partis à la rencontre de l'équipe du 357 Sunset, un centre d'accueil pour les jeunes, et de la ressourcerie de l'association La Cohue, qui viennent d'ouvrir.
Le quartier de Maurepa, il est assez connu pour des trafics, de drogue, etc. Selon vous, est-ce que ce genre d'endroit, ça peut aider justement les jeunes à rester loin de tout ce trafic autour de la drogue?
Je dirais, pour pas que les propos soient déformés, parce que ça a été le cas dans certaines interviews qu'on a eues sur des revues journalistiques, nous, on n'a pas créé le lieu pour ça. Je pense qu'on n'est pas là pour juger bonne ou mauvaise fréquentation, ce qui est souvent revenu quand même. Par contre, je dirais que c'est un lieu qui est très utile pour les jeunes, puisque je pense que s'ils reviennent, c'est qu'ils s'y sentent bien. Et on le remarque aussi, je pense qu'ils ont plutôt aussi confiance en nous, l'équipe d'encadrants, puisque ça a tout de suite bien marché quand même, l'ouverture du lieu, parce qu'on a été ouvert en juin. Et tourner à 20-30 jeunes par jour, c'est... Enfin, on a remporté le défi quand même haut la main.
On est aussi parti à la rencontre de la ressourcerie de La Cohue, qui vient d'ouvrir également. On vous laisse écouter aussi une partie de l'interview.
Vu que tu travailles à la ressourcerie, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les principes du lieu, etc.?
Et ben, l'idée d'avoir une ressourcerie ici, c'était de créer un nouveau lieu de rencontre et de partage. Et du coup, l'idée de la ressourcerie ici, c'est plutôt à dominante sociale. Donc ça va être vraiment que les gens ici viennent s'investir, qu'ils aient confiance en elle pour faire des nouvelles choses, c'est-à-dire par exemple trier, mettre en rayon, tenir une caisse, organiser des ateliers, rendre le magasin joli en faisant une petite décoration sur une table.
Des propos recueillis par Léane et Romain. Pendant 4 mois, Rennes 2 a accueilli en résidence l'artiste Pierre-Louis Gallo pour le projet Métisséo. Métisséo, Kézako. C'est une collaboration avec la compagnie Léribine, la sociolinguiste Gudrun Ledegen et le laboratoire Préfix. Le projet a, je cite, une visée politique en revendiquant les parlers rebelles face à un risque d'uniformisation de la langue et en regardant le langage comme un matériau libre, ludique, musical, viral, mouvant, sans nationalité et détenteur de ses propres lois. Pierre-Louis Gallo est allé à la rencontre des habitantes et habitants de Villejean pour enquêter sur les différentes pratiques langagières. Notez-le dans vos agendas, vous êtes invité à sa sortie de résidence publique. Ce sera mardi 12 novembre à 17h30 au Tambour. Novembre n'est pas que le mois de la déprime, c'est aussi le mois du doc. Depuis ce week-end et jusqu'au 30 novembre, toute l'île et Vilaine vous propose 76 projections, des masterclass, des rencontres et des échanges avec des cinéastes et professionnels du documentaire. Le programme est disponible sur comptoirdudoc.org.
Merci Gwen. Tout de suite, l'interview.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Les midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
À minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Et notre invité du jour, c'est Guillaume Meurice. Humoriste, il s'est fait connaître à la radio par ses micro-trottoirs et ses chroniques politiques sur France Inter. Il faisait partie de la bande de Charline Von Hennecker. Si tu écoutes J'annule tout, Par Jupiter, Le Grand Dimanche Soir. Il est renvoyé de France Inter en fin de saison 2024 à la suite d'une polémique visant un de ses sketchs. Se référant au conflit israélo-palestinien, il avait affirmé que Benjamin Netanyahou, premier ministre d'Israël, était un nazi sans prépuce, j'en bafouille. Depuis septembre, il a trouvé refuge sur Radio Nova avec ses complices Juliette Arnault, Pierre-Emmanuel Barré et aussi Émeric Lompré, où ils animent La Dernière tous les dimanches soirs. Il y a 2 semaines, il accordait une interview à Syllabe où il est question d'humour, d'humour à la radio et de liberté d'expression.
Merci beaucoup. Super bonne installation.
Guillaume Meurice me donne rendez-vous au chouette hôtel à Rennes, rue du Pont des Loges. Quand j'arrive dans le décor cosy du bar, il termine une interview avec un étudiant de Rennes 2.
Hop là.
Je vais te prendre un café s'il te plaît. Le temps d'aller chercher un autre café et on s'installe sur la terrasse à l'extérieur. La discussion commence.
Allons-y, parlons sérieusement. C'est ma spécialité.
Apparemment, ça fait 1 an et demi que tu es installé à Rennes.
Tout à fait, monsieur. Bien renseigné.
Qu'est-ce que tu penses de cette ville?
Ah, c'est une vaste question, ça. Bah, moi, j'aime bien parce que c'est ce qu'on appelle une ville à taille humaine, où tu peux connaître tes voisins, où tu peux connaître les gens de ton quartier, ce qui n'était pas trop possible à Paris. Et puis que c'est une ville riche. Culturellement, il se passe toujours des trucs. Il y a des bars un peu partout à proximité qui sont très sympas. Et y a de la campagne aussi pas loin. C'est-à-dire qu'on peut se barrer assez rapidement, faire des balades en forêt ou au bord de la mer. Donc c'est vraiment l'idéal. Mais je veux pas trop dire que c'est idéal, sinon ça va faire rameuter tout le monde. Déjà que moi je suis un peu responsable de l'augmentation du prix des loyers. Pardon. Je veux pas non plus que ça devienne n'importe quoi. Donc faut quand même savoir que c'est une ville pourrie. Voilà, ça tu garderas juste ça. Ça ment horrible, nul, ne venez pas.
Dans cet entretien, on va parler principalement de radio, média dans lequel tu as fait une bonne partie de ta carrière d'humoriste. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans ce média ?
Bah, moi, là, j'aime bien arriver autour d'une table dans un studio, me poser devant des micros et me marrer avec des potes en essayant de faire marrer les gens. Donc vraiment, ce que je recherche dans la radio, c'est la simplicité. Le côté simple de l'outil me plaît énormément, mais la preuve, tu vois, là, t'es arrivé... T'as un petit zoom, t'enregistres et c'est bon quoi, on peut discuter. Y a pas besoin d'installer des gros trucs, y a pas besoin de se prendre la tête, y a juste à regarder si t'as bien appuyé sur le bouton. Oui, ouais, c'est bon, voilà, impeccable. Une fois que c'est lancé, c'est bon. Donc c'est vraiment, c'est un outil un peu magique. Puis moi après j'ai un rapport à ça un peu de l'enfance. Il y avait toujours un poste allumé chez mes parents, j'avais pas la télé quand j'étais gosse, pardon. J'avais la... mes parents écoutaient la radio, écoutaient beaucoup France Inter, le téléphone sonne, etc., le jeu des 1000 francs, quoi. C'était des francs à l'époque, et oui, et donc j'ai un rapport aussi à ça, sûrement un peu affectif à la radio.
Parlons plus précisément d'humour à la radio. En tant qu'humoriste, tu as fait du théâtre,
ouais.
Tu as dû faire de la comédie,
ouais.
Tu as écrit des livres, tu as fait des one-man shows. Est-ce que tu trouves que faire de l'humour à la radio, c'est différent de tout ça ?
Bah, y a d'autres contraintes, ouais, parce que déjà le temps est limité. Quand tu fais une chronique, c'est souvent 3-4 minutes. Tu dois choper un autre tempo, tu dois être, je mets des guillemets aussi, mais plus efficace. C'est-à-dire dans un spectacle, t'as un peu plus le temps de t'installer. Les gens sont venus pour te voir pendant 1h30, 1h40. Alors que dans une chronique radio, souvent il va se passer des trucs avant, il va se passer des trucs après. Faut que t'installes tout de suite ta thématique, ton style. Sur scène, tu peux te permettre d'improviser, tu peux te permettre de... prendre en compte ce qui se passe dans la salle, si quelqu'un se casse la gueule ou part au milieu du spectacle. Quand même, la scène, pour moi, c'est l'espace de liberté vraiment absolue.
Donc, l'humour à la radio serait plus formaté ?
Ouais, t'es plus formaté, forcément. Le format te contraint à t'adapter. Mais ça veut pas dire que c'est moins intéressant. Hein. Souvent, on dit que les contraintes, c'est indispensable à la création artistique. Moi, je suis assez d'accord.
Pour parler de ton humour...
Oula.
Ouais. T'as décidé d'être dans un registre politique. Il y a sans doute plein d'autres choses qui te font marrer. Alors pourquoi écrire principalement là-dessus ?
Bon, parce que ça m'énerve. C'est une manière d'apaiser ta colère, quoi. Sinon, tu irais cramer des trucs. C'est pas légal. Bon, c'est compliqué. C'est une manière de, bah, déjà de transposer toi ce que tu ressens. Moi, j'ai toujours été comme ça aussi. C'est une nature. Quand j'étais gamin, j'étais déjà un peu comme ça. Et puis après, d'essayer d'en faire quelque chose. Si tu réussis à faire marrer les gens avec ça, potentiellement, peut-être tu peux leur faire prendre conscience d'un truc. C'est ça qui fait la spécificité de l'espèce humaine, c'est de partager des choses, de créer des liens entre nous. Donc c'est un peu ça que j'essaie de faire en faisant des blagues.
Pourtant, créer du lien sur des sujets clivants, c'est pas évident.
Ouais, parce que mon but, c'est pas de rassembler tout le monde. J'entends beaucoup de trucs, j'ai entendu beaucoup de trucs avec cette polémique, etc.
Mais quelle polémique ?
Il y a eu une polémique, il paraît, sur une blague que j'aurais faite. Des gens disaient, c'est pas drôle, parce que l'humour, ça doit fédérer. Déjà, je sais pas si ça doit fédérer, mais en plus, fédérer, ça veut pas dire tout le monde. Tu peux fédérer un groupe de résistants, tu peux fédérer un groupe de...
Il y a quelques semaines, tu étais l'invité d'une soirée du Club de la Presse de Bretagne sur le thème du micro-trottoir. Tu avais dit à ce moment-là que t'aurais aimé appeler cette soirée « la blague dans la plaie ». Tu peux nous expliquer cette expression ?
Parce que c'est une citation d'Albert Londres. Lui, il parlait du métier de journaliste, qui disait que c'était pas de faire plaisir ni de faire du tort, mais de porter la plume dans la plaie. Et bon, c'est une expression que je m'amuse à reprendre en disant « porter la blague dans la plaie ». Mais ça a un peu de sens, finalement, au-delà de la petite blagounette. C'est que l'idée, c'est de pointer du doigt une situation que tu juges anormale. Bon, souvent, moi, ce qui m'interpelle, c'est les rapports de domination. Donc, quand je vois des gens écraser d'autres gens pour soit zéro raison, soit des questions de religion, de pognon, de pouvoir, etc., bah, je trouve ça intéressant de pointer du doigt ce dysfonctionnement, ce que j'estime être un dysfonctionnement. Donc de porter la blague dans cette plaie-là, qui pour moi c'est une plaie dans la société, les rapports hiérarchiques, etc. Les rapports de domination, pour moi c'est vraiment ce qui cause le plus de tort, la compétition. Enfin, je ne peux pas te faire la liste, mais... Et Albert Londres, quand il parle de ça, il parle de porter la plume dans la plaie, c'est-à-dire essayer d'être le plus lucide possible, essayer de décrire le réel de la manière la plus efficace possible, la plus vraie possible, chercher sa vérité. Évidemment, c'est toujours subjectif, mais quand même, je crois que la tentative qu'il a quand il dit ça, il dit, c'est pas, je fais pas ça pour faire du bien ou pour faire du mal, en gros. Je dis ça pour aller voir ce qui se passe véritablement, aller au cœur de la vérité. Et l'humour, en vrai, ça peut servir à ça, je pense, un peu.
Je reviens sur cette idée de plaie, parce que l'humour peut aussi blesser. Dans la dernière, par exemple, il y a des gens qui en prennent sérieusement pour leur grade. Je pense aux policiers ou aux chasseurs dernièrement. Alors selon toi, quelle est la nuance entre attaquer, insulter et exprimer une opinion politique?
La nuance, c'est surtout l'intention, c'est pourquoi tu fais les choses. Bah, là, en l'occurrence, les policiers et les chasseurs, c'est plutôt des gens qui sont en rapport de dominant par rapport à des cueilleurs de champignons, par exemple, ou par rapport à des manifestants. Donc moi, ce qui m'intéresse dans ce qu'on fait, c'est de s'attaquer au rapport de domination en ciblant plutôt les dominants que les dominés. Parce que tous les gens, tous les réacs qui disent « on peut plus rien dire », ce qu'ils veulent dire, en fait, c'est « on peut plus faire de l'humour sur les dominés ». Ce qu'ils ont pratiqué pendant des années et des années, en faisant de l'humour raciste, sexiste, homophobe, etc., etc. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est le contraire. L'intention qu'on a, c'est de dire « il y a quand même des gens qui nous écrasent et qui nous oppressent, et c'est quand même... Le problème, c'est quand même plus ces gens-là que ce que les autres appellent la dictature des minorités, qui n'a jamais existé. En fait, il n'y a jamais eu de dictature des minorités.
Par rapport à cette idée d'exprimer ses opinions, est-ce que tu considères que la dernière est une émission d'opinion ?
Ouais, bien sûr, bah, on exprime des opinions. Après, c'est pas la ligne éditoriale de Nova. Nova n'a pas une ligne éditoriale marquée politiquement. C'est plutôt une radio musicale à la base. Donc, ouais. Mais nous, dans notre émission, on assume de donner notre avis. Et moi j'assume assez clairement le fait que c'est que mon avis et que je suis hyper chaud qu'on soit pas d'accord avec moi. J'ai vraiment pas de souci avec ça. Je cherche à convaincre personne. C'est juste mon opinion et sur un fait de société, on va dire, mon point de vue que j'exprime avec mes petits outils qui sont quelques blagounettes qui sont ma foi assez inoffensives. Mais après les gens ils peuvent faire des débats dessus s'ils ont envie, s'ils ont le temps. Mais c'est pas du tout, moi je me sens même pas provocateur, tu vois.
Ce que je trouve intéressant, c'est que dans le paysage médiatique actuel, il n'y a pas beaucoup d'espace de parole de gauche comme la dernière.
Oui, alors ça, c'est une discussion que j'ai eue la semaine dernière. Je trouve ça assez marrant qu'on nous considère comme une émission de gauche, mais je vois pourquoi, je ne suis pas complètement neuneux. Mais oui, mais pour moi, elle ne l'est pas. Parce que pour moi, on est juste une émission qui essaie de décrire la réalité. Et les gens qui nous disent ça, qui sont souvent des gens de droite, moi, je leur demande, mais avec quoi vous n'êtes pas d'accord, par exemple? On a eu 6 invités, là, c'était la 6e. Est-ce qu'ils ont dit des trucs faux? Est-ce qu'ils ont dit des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord? Ça se trouve, vous n'êtes pas tant de droite que ça. Quand Julia Cagé, elle dit c'est anormal que très peu de milliardaires possèdent tous les médias, qui peut être en désaccord avec ça? Pour moi, elle décrit juste la réalité. Elle donne son avis sur la réalité en disant que c'est pas normal. Mais est-ce que la majorité de la population française, elle pense pas la même chose? Est-ce qu'il n'y a pas un vrai problème à ce niveau-là? C'est plus ça qui m'intéresse, hein. C'est vraiment des gens qui... Et même, on a eu Guylaine David, qui est une syndicaliste, donc là, pour le coup, qui a une parole politique assumée. C'est son syndicat, etc. Moi, je mets au défi quiconque de me dire ce qu'elle a dit de faux dans l'émission. Alors que CNews, si tu n'as pas peur du burn-out, on peut fact-checker une journée de CNews. Ils disent n'importe quoi.
Justement, je trouve que le parallèle avec CNews ou avec une émission comme Touche pas à mon poste peut être assez intéressant. TPMP qui a un peu lancé le concept d'infotainment en France.
Ouais.
J'ai l'impression qu'on pourrait voir la dernière comme une espèce d'anti-TPMP. Où on reprend des éléments de l'infotainment,
ouais.
Le fait de se marrer, d'interroger des experts sur l'actualité. Mais à l'inverse de la TPMP, on est plus dans la bienveillance que la médisance ou la polémique, et on s'appuie sur une parole scientifique ou sourcée.
Moi, je ne l'ai pas imaginé comme ça, mais peut-être ça peut être ça, ouais, par défaut, on va dire. Moi, je n'ai pas essayé de faire un anti quelque chose. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de montrer que le sérieux, ça s'opposait pas à la blague. C'est pas ça l'opposition qu'il y a. On peut très bien apprendre des choses en se marrant. Je voulais prouver qu'on peut faire une émission où à la fin on est moins con et où à la fois on aura bien rigolé. Donc ouais, on a essayé de faire ça. Oui, non, pour moi c'est pas de l'infotainment dans le sens où on n'a pas de journaliste dans l'émission, donc c'est même pas de l'information. C'est plus, comme je disais tout à l'heure, de l'éducation populaire pour moi. Non, c'est vraiment l'émission que j'aurais aimé écouter si j'étais pas dedans. C'est sûr que je l'écouterais. Je pense qu'il y avait un manque de ça quand même. D'ailleurs, je me dis, si moi, tu vois, je suis pas unique en mon genre, donc si moi j'avais envie d'une mission comme ça, je me dis, possiblement il y a d'autres personnes qui avaient envie d'une mission comme ça. Donc ouais, ça m'a bien plu d'avoir l'occasion de le faire.
Ce qui est frappant à chaque fois avec ces experts, c'est qu'ils se marrent avec vous.
Ah oui, oui, bah oui.
Alors que sur d'autres chaînes, on va plutôt les faire passer pour des gens chiants.
C'est ça. Moi, je leur dis toujours, ça sera pas chiant, hein. Ce que tu vas dire, ça sera pas chiant. Parce que souvent, ils me disent, ah ouais, mais moi, je suis pas marrant. Alors je dis, mais non, mais moi, si je te dis de venir, c'est pas pour faire des blagues, c'est pour nous expliquer des trucs.
Un des enjeux de la dernière, c'est la liberté d'expression, qui visiblement n'était plus tout à fait possible chez France Inter, dans le service public. Ça paraît presque paradoxal qu'elle trouve refuge dans un média privé comme Nova.
Je suis d'accord avec toi. Oui, oui. Ça devrait être une des prérogatives de la radio publique. permettre à tout le monde de s'exprimer. Qui plus est, quand c'est de l'humour, parce qu'en plus, l'humour dans le droit français, il est plutôt pas mal protégé. Il y a une jurisprudence. Bon, là maintenant, je suis expert parce que je viens de relire le dossier des prud'hommes qui fait presque 50 pages avec des jurisprudences à droite à gauche. Et c'est plutôt rassurant qu'ils soient bien protégés. Puis en plus, nous, j'étais humoriste dans une émission d'humour. Tu vois, enfin bon, ça, les gens qui ont fait semblant de ne pas comprendre, c'est vraiment, comme je le dis, ils ont fait semblant. Donc ouais, ça m'a surpris aussi que je ne sois pas défendu par ma hiérarchie. Et puis après, j'imagine qu'ils ont eu des pressions et qu'ils, voilà, je ne veux pas leur trouver des excuses, mais on s'inscrit dans un champ aussi, un champ social qui fait qu'ils ont eu des pressions. C'est un champ politique. De présidente de Radio France, c'est un poste politique, que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Tu es nommé par le CSA, le président du CSA, il est nommé par Macron, donc l'enquête n'est pas très compliquée. Tu n'as pas besoin d'une pipe comme ça. Je crois que j'ai une piste.
Est-ce que tu as des annonces à nous partager pour les prochaines émissions de la dernière?
Ouais, on a des invités assez stylés, là, carrément Christophe Cassou, qui est un des co-auteurs du GIEC, donc on va parler assez. Du réchauffement climatique, évidemment, mais de manière assez précise. Qui est-ce qu'on a dans les jours qui viennent? On va faire une émission à Toulouse. Ouais, parce qu'il n'y a pas de fréquence Nova à Toulouse. Il n'y en a pas à Rennes non plus, voilà. Donc on va essayer de faire une petite tournée là pour aller voir les gens où ils sont. Et donc notre invité sera Élise Costa, qui est une chroniqueuse judiciaire. Donc on va parler beaucoup de justice, parce que c'est un truc qui m'interpelle aussi. On parle beaucoup de justice dans l'actu, mais il y a plein de termes, tu vois, genre partie civile. Moi, je ne saurais même pas bien expliquer. Même mise en examen, que ça veut dire exactement. Donc, et elle adore faire de la vulgarisation juridique, et puis elle écrit des chroniques. Elle parcourt les cours d'assises depuis un certain temps, donc ça, je pense que ça va vraiment être une invitée passionnante. Dimanche prochain, on a Flore Judet, qui est une des porte-parole de l'Auberge des Migrants à Calais. Donc voilà, moi j'essaie d'avoir des gens du milieu associatif, des scientifiques, des universitaires, pour avoir une espèce de mix entre tout ça, parce que c'est de société civile, parce que c'est pas la même parole quand t'es porte-parole d'un syndicat par exemple, ou d'une assoce, ou quand t'es universitaire. Je trouve que tu parles pas du même endroit. Il y a des choses que tu peux dire que tu pourrais pas dire si t'es universitaire, et vice versa. Là on a eu Pierre Rigaud, qui est un naturaliste militant anti-chasse. Lui, il est militant anti-chasse assumé, mais c'est vraiment son obsession. Donc il enquête sur la chasse, il fait des vidéos sur internet, il est très très précis là-dessus, mais il a une parole. Oui, on le présente comme un militant anti-chasse. Ça veut pas dire qu'il va dire des trucs faux. Ça veut dire qu'on sait d'où il parle. Ça m'intéresse beaucoup de savoir d'où les gens y parlent. Et ce soit pas juste marqué comme sur BFM, expert en géostratégie. Je dis, attends, mais d'où, de quand, comment, par qui t'es payé? J'aime bien ce côté transparent. Ouais.
De belles choses en prévision alors?
Ben, ma foi, on va essayer de tenir. Hein.
Et puis une émission à Rennes, ça marcherait, je pense.
Et à Rennes, il y aura forcément, ouais, ouais, ouais.
Merci Guillaume Meurice.
Merci Silab. C-LAB. Mais en vrai, il n'y a pas de tiret, mais c'est sur le site internet.
Est-ce que tu as un dernier mot à nous partager?
Eh ben, vive la Bretagne libre. Voilà, je suis déjà en campagne un peu.
Guillaume Meurice anime La Dernière sur Radio Nova tous les dimanches soirs de 18 à 20h. Avec la dessinatrice Sandrine Deloffre, il publiait le 11 octobre dernier la BD La Révolte sans précédent, à retrouver dans toutes les bonnes librairies.
Ah, heureusement que Guillaume a précisé qu'il n'y avait pas de tiret. J'ai eu peur à un moment donné. Cette interview a été réalisée par Jean Guégan. Merci Jean. Vous pouvez la réécouter en version longue sur le site de Syllabe.
6 heures avant minuit.
Mardi 29 octobre, Guillaume Kasbarian, ministre de la fonction publique, annonce au micro de RTL vouloir aligner le nombre de jours de carence du public sur celui du privé. Il passerait alors de 1 à 3 jours. Le ministre évoque aussi l'arrêt de l'indemnisation complète des congés maladie, passant alors à 90%. Mais ces 3 jours de carence, ils ont vraiment lieu dans le privé? Cyriane nous propose un décryptage.
Alors en fait, pas tout à fait. La loi prévoit effectivement 3 jours de carence pour les salariés du privé. Toutefois, dans les faits, pour de nombreux salariés, ce délai est réduit, voire même inexistant. Parce qu'à la différence de la fonction publique, des accords d'entreprise ou des conventions collectives prévoient de réduire le nombre de jours sans indemnisation et parfois sous conditions d'ancienneté. Là où, dans le public, tout le monde est logé à la même enseigne. Un jour d'absence égale un jour de carence non indemnisé.
Et pourquoi cette mesure, Cyriane?
Parce que de 1, c'est la crise, Héloïse, en fait, rappelle-toi. Faut suivre. Les caisses de l'État sont vides, donc on pioche dans celles des fonctionnaires. Et puis de 2, parce que selon le ministre, il y a...
une augmentation significative de la moyenne de jours d'absence par agent, qui est passée à 14,5, alors qu'il y a quelques années, on était à 8. C'était à peu près la même chose privé-public il y a quelques années. Aujourd'hui, on a une vraie divergence, c'est-à-dire qu'il y a un écart qui s'est creusé entre le public et le privé.
Et comment on l'explique, cette augmentation ?
Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a un petit truc qui a un peu changé nos vies ces dernières années. Attention, suspense, de quoi je parle ?
Petite
c'est très dur à trouver. Hein. Attention,
à
attention. Et oui, bravo, je parle bien du Covid.
Je le savais.
T'étais à ça, à ça. En fait, Monsieur Kasbarian prend comme chiffre de référence ceux d'études réalisées entre 2014 et 2019. Période où salariés du privé et agents publics dans leur ensemble présentaient un absentéisme quasi identique et assez stable sur la période, avec en moyenne près de 8 jours d'absence par an et par personne. Puis, avec l'épidémie, ce nombre a augmenté pour passer en 2022 à 14,5 jours dans le public contre 11,6 dans le privé. La hausse depuis 2014 a donc été plus importante dans le public, plus 75%, que dans le privé, plus 40%. Sauf que quand on compare tous les fonctionnaires avec tous les salariés du privé, on efface les différences et les pourquoi du comment les gens sont plus ou moins absents ou absentes. Je vous propose donc de refaire un peu le tri dans tout ça. Déjà, on divise en trois catégories les fonctions publiques, étatiques, hospitalières et territoriales. Et puis là, paf, on s'aperçoit qu'en 2022, même après une hausse importante suite à l'épidémie, les fonctionnaires de l'État, hors enseignants et enseignantes, affichent toujours, avec 10,2 jours, un nombre d'arrêts par agent inférieur au secteur privé. Les enseignants et enseignantes, eux et elles, présentent un nombre moyen d'absence identique à celui des salariés du privé. Les deux autres fonctions publiques, territoriales et hospitalières, ont quant à elles toujours eu un absentéisme supérieur au privé. Et oui, parce que quand on soigne des malades, on devient parfois malade à son tour. Je sais, c'est choquant. Mais ces différences, elles ont d'abord une explication socio-démographique en réalité.
Ça veut dire quoi concrètement ?
Alors déjà, premièrement, dans la fonction publique, la moyenne d'âge est plus élevée. Donc plus on est vieux, plus notre corps est fatigué, plus on a besoin de faire des arrêts maladie. Logique. Et puis il y a une majorité de femmes dans la fonction publique. Rien qu'à elles, elles représentent 63% des effectifs. Et les femmes, elles peuvent être mères d'une famille monoparentale, avoir des menstruations douloureuses ou encore tomber enceinte. On rappelle aussi que les hommes ont moins tendance à prendre d'arrêt maladie.
Et on note que les absences pour des raisons de santé dans la fonction publique entameraient une baisse par ailleurs, sans toutefois retrouver leur niveau d'avant-crise Covid. La hausse constatée lors de l'épidémie s'est réduite d'environ 30% en 2023 dans la fonction publique étatique, par exemple. En attendant la loi, elle est toujours en discussion dans le cadre du projet de loi de finances du gouvernement. Merci Cyriane pour tous ces chiffres et toutes ces explications, c'était vraiment qualitatif.
Ah merci, ça fait beaucoup de chiffres. Désolée aux dyscalculiques qui nous écoutent.
J'espère qu'ils nous pardonneront. Je crois qu'on devrait se passer un petit coup de bigot.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô.
La radio sauvage.
Un message à nous faire passer, un fait marquant près de chez vous dont vous avez envie de nous parler, une déclaration d'amour, on en a déjà eu une. Ou peut-être un coup de gueule, ça on n'a pas encore eu.
Je me demande bien à qui elle était destinée, mais bref.
On ne sait pas. Un retour sur nos reportages sinon, hein Cyriane. Ouais. Laissez-nous un message vocal. Le numéro, c'est le 02 30 96 25 35. Il sera peut-être diffusé à l'antenne. Merci Timothée pour la technique. On vous dit à demain.
Le crack.
Si. La radio sauvage.
Quelle heure est-il ?
6h exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h.
Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab, la radio sauvage.